À la 20e édition du Festival des droits humains et forums, bien sûr, au Théâtre Pitoyev, avec José Juan Lozano. Buenas tardes.
Non, avec Juan, José Lozano.
Et voilà, il m'a trouvé. Et il fait du bruit.
Pardon.
Et avec...
Je vais couper ça.
Zoltán Horváth, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, pour parler de Jungle Rouge, qui nous plonge justement au cœur de la jungle, à proche de la frontière équatorienne, aux côtés de Raúl Reyes... Et c'est suite à la découverte d'une correspondance sur 10 ans qu'on a trouvée dans son ordinateur, après qu'il ait été éliminé par la CIA, que tout d'un coup ce projet vous a semblé une évidence. Comment vous vous êtes retrouvés tous les deux sur ce projet ?
C'était pas si évident au tout début. À la base, c'était un documentaire censé raconter 50 ans de lutte dans la jungle.
Des FARC.
Et c'est justement en retrouvant ces ordinateurs et en étudiant la correspondance que l'idée est venue de faire un film en ayant comme personnage principal c'est Raúl Reyes, qui était le détenteur de ces ordinateurs et de ces milliers d'emails qu'on a pu lire et étudier. Et l'idée de l'animation est venue pour incarner cette idée qu'on avait au début d'entrer dans la tête de Raúl et de plonger dans sa... Dans sa double réalité. Il vivait dans deux mondes parallèles. Et la rencontre avec Zoltán nous a permis de donner vie à ces personnages, à cette jungle qui devient un vrai personnage du film, et de concrétiser le projet.
Oui, la jungle était un protagoniste à part entière. Alors, quels ont été les défis à relever pour pouvoir donner un tel résultat sur l'écran ?
Bon, d'abord, il a fallu un peu chapitrer en fait l'évolution de la mentalité de Raúl. D'abord, dans un premier temps, se dire bon ben voilà, avoir une jungle assez bavaroise, moi j'ai l'habitude de dire,
c'est-à-dire, très colorée en tout cas.
Au début, elle est assez bien ordrée, les fûts des arbres sont bien droits, on a enlevé tous les arbustes, toutes les lianes, il n'y a plus rien. Ça, c'est le premier camp. Puis au fur et à mesure du film, au fur et à mesure qu'il déménage de camp en camp, la jungle devient de plus en plus foisonnante, de plus en plus envahissante, de plus en plus présente au niveau des dessins, mais aussi au niveau du son. Et puis jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit où la jungle est complètement foisante, mais complètement maladive aussi. En fait, c'est une sorte de repère de trafiquants de pétrole. Donc, c'est une sorte de mélange entre jungle naturelle et puis fûts et puis tuyaux de pétrole. Et puis ensuite, le dernier camp, c'est une jungle complètement fantasmée, parce que là, c'est pour montrer le fait qu'il est complètement... à ce moment-là, il a complètement perdu le pied par rapport à la réalité. Il est vraiment dans un monde à lui. Et donc, en fait, la jungle illustre toute cette évolution dans sa tête, de manière très concrète et très incarnée, en fait.
Au début du projet, sur Vertigo, vous aviez dit tous les deux que vous ne vouliez pas porter de jugement. C'était vraiment pour suivre un peu ces derniers moments de Raúl Reyes. Mais en même temps, par moments, il y a deux, trois séquences où il apparaît totalement fou, tyrannique en tout cas. Là, quand il est au téléphone avec Manuel, le numéro 1 des FARC, et puis qu'il s'énerve, il est en train de massacrer des vers là, dans l'écorce d'arbres, par exemple. Il y a deux, trois scènes où on se dit il est quand même fou.
On a pris ce personnage à bras le corps comme un personnage romanesque. On a dû se décoller un peu de la réalité pour pouvoir donner une ampleur aux propos. Parce que le but n'était pas simplement de raconter l'échec de cette lutte révolutionnaire, mais essayer d'aller au plus profond de l'âme humaine, essayer de comprendre une certaine condition humaine à travers ces personnages. Et voilà, c'est la fiction qui te permet d'entrer dans cette tête et de l'interpréter de différentes manières. Une de ces manières, c'était là, ces vers de terre ou ces vers qui poussent à l'intérieur d'un corps, c'est une incarnation d'une maladie qui ronge de l'intérieur. En tout cas, c'est comme ça que nous lisons cette histoire des FARC, cette histoire de cet homme qui s'égare qui s'égare dans l'histoire.
Parce qu'au début, les intentions étaient bonnes. D'ailleurs, on entend à un moment donné l'International, que tout le monde chante. Mais petit à petit, ils ont adapté des méthodes tout aussi fascistes que celles du gouvernement.
Il y a un grand mépris de l'humain. Et ça, c'est pas le film qui le dit, c'est la réalité, c'est l'histoire. 50 ans de lutte dans la jungle, forcément, ça... C'est la dégradation de la guerre. Les idéaux nobles du début passent complètement à la trappe. Et à la fin, ils ne savent pas pourquoi ils combattent, pourquoi ils sont là. Et c'est ces cheminements que nous avons voulu raconter. C'est un film sur l'échec. La révolution est un mot porteur d'espoir, mais ça, ce n'était plus de la révolution.
Et comment vous avez travaillé donc avec les acteurs qui sont en captation, si je ne me trompe pas ?
Oui, c'est des vrais acteurs qui ont été tournés sur fond vert. Et puis ensuite... Dans un studio à Genève, oui. On a fait venir les acteurs de Colombie, mais tout le reste de l'équipe était genevoise ou environnante. Et puis ensuite, une fois qu'on a tourné ces personnages, on a fait le montage. Et ensuite, on a récupéré tout ce qu'on pouvait sur... les mouvements de caméra, tout ça, et ensuite pour pouvoir mettre derrière les décors, créer les personnages, et ensuite faire toute une moulinette, toute une série de filtres pour arriver à trouver une image cohérente, qu'on n'ait pas l'impression qu'on ait qu'on sent le moins possible cette différence entre d'une part des images filmées et d'autre part des images dessinées. Donc ça, en filtrant les images, en leur donnant un peu un look peinture, mais ensuite en faisant du compositing, en travaillant sur la lumière, tout ça pour arriver à avoir une image le plus cohérente possible.
Oui, non, un mot sur les comédiens, c'est vrai que...
Un mot, je me permets, j'ai cru reconnaître non seulement Isabelle Gatiker,
aussi,
en journaliste française, Omar Porras,
ouais.
TKM, Teatro Malandro, et Jean-Pierre Motas dans son propre rôle.
Sur son propre rôle.
C'était mon professeur à l'université, et moi j'ai été très peinée quand il est servi de médiateur. Ça a été l'émissaire qui était le plus adéquat, mais il a été passé à la trappe, il a été critiqué. Là, c'est lui rendre un bel hommage quand même.
Oui, je pense, et je remercie que tu le vois sur cette œil-là.
Jean-Pierre Gontard.
Oui. C'est vrai que la fin de carrière, on va dire, de Jean-Pierre Gontard a été tachetée, on dit
entachée
par un jeu politique très pervers de la part du gouvernement Uribe. Jean-Pierre était interdit de territoire en Colombie et dans d'autres pays de la région aussi. Après 200-300, son nom a été complètement lavé et il a pu retourner au pays. Donc oui, c'était une manière de lui rendre un hommage. Maintenant, sur les comédiens professionnels qui jouent dans les films ou sur ceux qui incarnent les rôles principaux, c'est des acteurs de théâtre qu'on a fait venir de Colombie. On a fait un grand travail de documentation avec eux sur ce que c'est un guerriero, comment on joue avec son corps. Ils ont rencontré des commandants des FARC en Colombie dans leur travail de préparation. On a fait un grand travail de préparation justement pour jouer dans des conditions extrêmes, jouer dans un studio où il n'y a aucun objet avec lequel ils puissent s'appuyer pour son jeu. Donc on donnait des indications très sommaires, la lumière vient de la gauche, à droite il y a une rivière, il y a une colline.
Tous les matins on entendait une minute d'enregistrement de jungle quand même, juste pour essayer de les mettre un peu dans l'ambiance. Et chaque fois, c'était assez joli, cette sorte de communion le matin.
Oui, oui. L'ingénieur du son nous a préparé 36 fichiers de jungle différentes. Chaque fichier correspondait à un esprit particulier de la jungle et qui était en consonance avec les scènes qu'on allait jouer ces jours-là. Et comme dit Zoltan, ouais, c'était une sorte de cérémonie. On entendait tous ces minutes de jungle pour pouvoir entrer dans les jeux.
Et justement, ces comédiens, puisqu'ils sont du théâtre colombien, est-ce qu'ils viennent de l'intermédiaire d'Omar ? Porras ?
Non, non, Omar a quitté le pays depuis un bon moment. Non, on a fait un travail de casting, donc on a engagé des services de Natalia Morales, qui est une agente de casting assez importante en Colombie. Pour le rôle de Raoul, on a auditionné une trentaine de comédiens, de très bons comédiens. Pour le rôle de Gloria, ça a été un peu plus facile dans le sens où on a trouvé très rapidement notre Gloria.
Qui est la fille de Manuel et qui est l'épouse de Raoul.
Qui est, non, ça c'est une erreur de l'histoire. Donc à un moment donné, Raoul, à un moment donné, une des compagnes de Raoul, on l'a pris comme la fille de Manuel. Et les journalistes se sont mis à dire c'est la fille de Manuel, mais en fait pas du tout, c'était juste un homonyme. Voilà, donc c'est pas la fille de...
L'honoré sauf.
Ouais.
Et les autres comédiens.
Et je me suis perdu.
Donc
non, des comédiens. Les autres comédiens, donc Patricia Tamayo qui joue Eliana, Julián Díaz, Emilia Ceballos, c'est des gens qui travaillent en Colombie. Il y a peu de cinéma, beaucoup de télévision, beaucoup de séries, de telenovelas. Donc tous ces comédiens jouent aussi bien dans le théâtre que dans la télévision. Il y a certains qui ont joué sur Narcos, par exemple, sur la série Narcos. Donc ils jouent dans les deux tableaux, mais ils sont la discipline et la rigueur d'un comédien de théâtre qui sait composer avec très peu de choses.
Oui, parce qu'à un moment donné, puisqu'ils sont sur fond vert, on les voit avancer sur le fleuve avec la barque. Tout d'un coup, certains doivent pousser la barque. Ça doit être difficile à visualiser.
Alors, pour la séquence de la barque dans le fleuve, hein, c'est pas eux qui avancent. En fait, c'est la caméra qui avance. Voilà. Donc après,
merci, si vous êtes j'avais besoin de l'information.
Alors, si vous êtes un œil aiguisé, parce qu'il y a toujours des yeux aiguisés, à un moment donné, on voit qu'on aurait dû aller un peu plus vite avec la caméra pour faire un effet de parallaxe. Enfin, ça devient très technique, ça. Donc, mais sinon, quand on pousse dans le fleuve, une barque, ça, je ne me souviens pas de ce plan.
Il y a une personne qui est derrière, qui est censée un peu la pousser.
Oui. Non, en fait on a joué aussi avec beaucoup d'artifices du théâtre. Par exemple, mettre la barque sur des chambres à air des camions. Mmh. Et il y avait quelqu'un qui bougeait ces chambres à air, on dit. Pour créer ces mouvements-là. D'ailleurs, c'est Freddy Porras, le décorateur de théâtre qui était chef des décors sur les plateaux de ce projet. Donc, il a créé toute une série d'objets qui nous ont permis après de coller des décors en animation qui ont été créés soit dans les studios de Sultan, soit dans les studios de nos coproducteurs à Lille, en France.
Parce que là, on parle de la séquence de la barque, mais il y a aussi des séquences dans la jungle quand il pleut, et puis on a des vues plongeantes qui sont assez techniquement assez belles à réaliser. Enfin, je suis assez content parce qu'elles marchent assez bien, alors que là, on est censé voir plusieurs dizaines de mètres de dénivelé comme ça, et ben ça, tout a été créé dans un studio avec à peine 10 mètres de 10 mètres de hauteur. Donc c'est vrai
à Lille.
Alors non, c'était à Genève.
C'est à Genève, à Mérin.
Et à propos de la bande son qui est importante tous les matins, puisque c'était pour immerger les comédiens dans l'atmosphère de la jungle, quel a été le travail sur cette bande son ? Il y a le sifflement du serpent, il y a les cacatoès, là, les perroquets qui...
Waouh, c'est...
Mais il y a tout.
En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, un des grands trucs autour duquel je me suis un peu battu avec les gens, c'est faire en sorte qu'à un moment donné, comme la jungle devient de plus en plus, avec le temps, de plus en plus malsaine ou maladive, ou alors... délirante. Moi, je sentais qu'il fallait qu'au niveau du son, on suive cette évolution. Donc, à un moment donné, qu'on sorte du réalisme de la jungle. Et puis, donc, c'est vrai qu'à la fin, dans la dernière jungle, on a énormément de sons très bizarres, des chants de baleines ou des chants de choses pour vraiment accompagner ce lent glissement vers la folie. aucune évolution.
À l'instar des humains.
À l'instar des humains.
Et puis pour complémenter ce que dit Soltan, pour un film d'animation, la bande son elle est très importante, elle est bien plus importante, je dirais, que pour un film de fiction normale. Nous avons investi presque la même quantité de semaines de montage image pour la création de cette bande sonore qui est signée Carlos Ibáñez. La musique du film a été composée par Nascuy Linares, qui est un compositeur vénézuélien qu'on a entendu sur l'étreinte du serpent, par exemple.
Qui nous fait danser le vainito à un moment donné.
Non, là pour le coup, cette chanson, c'est une chanson des Farc, c'est une vraie chanson des Farc, qui a été interprétée ici par un groupe de musique que nous avons créé pour les films. Et c'est dans la voix de Monica Prada que cette chanson peut exister.
Ah, c'est une chanson alors du répertoire des Farc. Oui. Et justement, à propos des Farc, on en disait au début d'entretien qu'il y avait accès à cet incroyable échange épistolaire entre Manuel et Raoul, à tous ces écrits. Est-ce que c'était facile d'accès ou est-ce qu'il y a encore une crispation quand on parle des Farc en Colombie ?
Non, il y a une crispation énorme. Et de toute cette correspondance, seulement une petite partie est publique. Il s'agit des 2000 emails, quelque chose comme ça, qui ont été publiés par un livre édité à Londres par un think tank qui s'appelle l'Institut international d'études en stratégie militaire. Mais la grosse partie de cette correspondance reste
sous scellée.
Et il y a des journalistes que j'ai pu approcher qui m'ont donné des paquets de ces emails que nous avons étudiés, dans lesquels il y a la correspondance non seulement avec Manuel, le grand chef des Farc, mais avec les autres membres du secrétariat et des personnes à l'extérieur du camp, des journalistes, des émissaires, des membres des partis communistes du monde entier. Et c'est une correspondance problématique. En Colombie, il y a des gens qui disent que tous ces emails ont été truqués, trafiqués, que le gouvernement d'Uribe a planté des informations fausses. C'est possible. Mais en tout cas, pour nous, notre intérêt, ce n'était pas de dévoiler des grands secrets de géopolitique ou de... C'était plutôt de voir un administrateur de la guerre au quotidien et d'essayer de le comprendre dans sa dimension. Donc après avoir étudié tous ces emails, nous avons approché la plupart des survivants de cette correspondance pour essayer de corroborer les informations qui étaient contenues là. Ouais, voilà.
Et justement, le Jungle Rouge nous plonge en 2008. Les derniers moments de Raoul Reyes avant qu'il soit éliminé par la CIA. Après, il y a eu les accords signés en 2016. Est-ce que la situation en Colombie maintenant est stable ? Est-ce que ça appartient au passé ?
Non, du tout. On a cru pendant les 2 ans qui ont suivi la signature des accords. Mmh. Là, on a respiré un peu un climat de paix qu'on n'avait jamais connu. Par exemple, l'hôpital militaire à Bogota. Qui est un hôpital de guerre, en temps normal il est surchargé. Là, pour la première fois, pendant 2 ans de suite, il y avait des lits libres parce qu'il n'y avait plus de combats. Malheureusement, le gouvernement qui a été élu après, donc c'est un gouvernement qui a été élu sur la base d'une promesse de saboter les accords de paix. Et donc, il y a des... Pour le coup, je dirais que ce sont les Farc qui ont honoré ces accords de paix en rendant les armes, en respectant les différents. La promesse de ne pas revenir aux armes. Mais pour le coup, c'est les institutions gouvernementales et une partie de la société qui ne sont pas prêts à accueillir honorer. Les Farc, à honorer les accords. Et donc, on dénombre aujourd'hui plus de 300 membres des Farc assassinés. Et chaque jour, il y a des leaders sociaux qui sont assassinés. Il y a des massacres à nouveau. Il y a une partie petite, infime des Farc qui sont revenus aux armes. mais c'est lié à des négoces, des trafics de drogues. Donc non, la situation actuelle, elle est compliquée, complexe, difficile.
Ouais. Avec les réfugiés vénézuéliens, en plus.
Aussi.
Voilà. Et comment vous ressortez tous les deux de cette expérience commune ?
Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Juan. Je crois que on a des caractères très différents. Et donc,
un est plus taciturne que l'autre.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est bien sûr.
Je n'ai pas donné de nom.
Oui, oui, vous pourrez. non, voilà, c'était pour moi, c'était une très très bonne expérience. Je serais prêt à la retenter si d'aventure Juan fait un film qui aura besoin d'animation. Je crois que oui, on était très complémentaires. Et voilà, rien d'autre à dire.
Wow. Mais qu'est-ce qu'il me reste à dire? J'adhère à tout ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il me reste de cette expérience? C'est très difficile. On a vécu avec ces projets, avec ces personnages pendant 9 ans.
9 ans de travail.
Pas tous les jours, parce qu'on a fait d'autres choses en parallèle. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est difficile de se dire, voilà, on a fini le taf, maintenant le film il est là, donc il faut qu'il trouve son public. Et cette partie-là, ces moments d'abandonner les films, n'est pas facile. Ouais.
Voilà. Et le film, il sortira cet été sur les écrans romans ?
Exactement, ouais.
Au mois de juin, normalement.
Normalement, au mois de juin, en simultané avec une sortie française. Ouais.
Merci Juan, merci Zoltan.
Merci.
Merci.